It's Morning Edition from NPR News.
Das sieht hieß an Bieberhausen.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons bien sûr entre la Pologne et la Biélorussie, alors que l'Europe va annoncer, elle l'a dit, dans quelques jours, des sanctions supplémentaires contre Minsk dans cette lamentable affaire qui est plus une crise politique qu'une crise migratoire et qui en dit long sur l'Europe divisée toujours et encore sur ces questions. Le bruit du monde est en Jordanie, le pays où l'emploi des femmes est l'un des plus bas du monde. Elles se mettent à des métiers d'hommes, avec des guillemets, bien sûr, chez nous ça passerait presque inaperçu, mais femmes et plombiers en Jordanie, c'est autre chose. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé des Congolaises qui se cotisent pour juger leurs violeurs, une tribu maori en Nouvelle-Zélande qui ne veut plus entendre des AK à tort et à travers dans les manifestations, et le Royaume-Uni qui veut sauver ses cabines téléphoniques rouges. 18h50, le monde selon Joe Biden, avec une signature du plan infrastructure effacée par les sondages qui descendent et qui descendent encore pour Joe Biden. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four, un pied aux États-Unis là aussi avec le sommet virtuel Biden-Xi Jinping, une lueur peut-être au milieu de la guerre froide. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabrice Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Mathieu Tardis.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre Migration et Société de l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste des politiques européennes d'immigration. Dans un instant, nous rejoindrons Marie-Pierre Véraud qui est à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Mathieu Tardis, comment empêcher ce drame? Comment ne pas poursuivre ce drame humain qui est déjà en cours? Peut-il y avoir un épilogue à ce désastreux épisode même et ces migrants pris au piège? Ce soir même, l'Europe a dit que dans quelques jours, elle prendrait un certain nombre de sanctions. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit c'est déjà ça? Est-ce qu'on dit mais encore? Est-ce qu'on dit enfin? Est-ce qu'on dit ça va pas bouger? Qu'est-ce qu'on dit?
Alors, je pense que les sanctions n'auront pas forcément un impact sur cette question migratoire, on va
c'est
dire.
C'est pas ce qui donnera l'épilogue de l'affaire,
non,
c'est sûr.
Non, alors en revanche, vous avez raison de dire, il faut aussi trouver un épilogue pour les 2000 personnes qui sont actuellement coincées. Donc il y a une action humanitaire à avoir, le HCR et l'Organisation Internationale des Migrants avec le Croix-Rouge Biélorusse commencent à pouvoir avoir accès à ces personnes, mais il faut vraiment trouver un épilogue pour ces 2000 personnes. Les Irakiens, le gouvernement irakien est en train de prévoir des retours, des rapatriements, mais pour ceux qui le souhaitent. On va voir combien de ces personnes le souhaitent, mais il va falloir quand même, dans un avenir très très proche, trouver une solution pour ces 2000 personnes. Alors après, la question de la relation avec la Biélorussie, et puis en fait des nouvelles arrivées, c'est peut-être un autre type d'action et qui est menée en ce moment, en tout cas par l'Union européenne, en essayant d'empêcher les départs à partir du Moyen-Orient. Mais cette question quand même des 2000 personnes, et il faut la régler.
Et alors, évidemment qu'il faut la régler, et en même temps, s'agissant des sanctions, Loukachenko a déjà promis et se dit prêt à riposter, ce sont ses mots à lui, ça veut dire que on peut se retrouver aussi face à des épisodes de ce genre qui seront des épisodes sans fin. Est-ce qu'il en a sous le pied, Loukachenko, selon vous, pour titiller l'Europe à ce point-là et régulièrement?
En tout cas, je pense qu'il faut, sur la question des personnes et des migrants qui fait venir, je pense qu'il faut aussi à mesurer sa capacité de nuisance. Mm-hmm. C'est-à-dire, on n'est pas dans la même situation que quand la Turquie fait du chantage aux migrants. C'est-à-dire, il y a 4 millions de réfugiés syriens, rien que syriens, en Turquie. Donc là, c'est très facile de laisser partir. Donc là, il faut organiser les arrivées à Minsk et en Biélorussie, et là c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout que les compagnies aériennes libanaises, syriennes et même Turkish Airlines ont annoncé de arrêter les vols vers Minsk.
Alors arrêter aussi sous la contrainte hein, d'ailleurs, parce que on leur a demandé, mais pas forcément poliment, d'arrêter ces choses-là, mais j'ai envie de répéter ma question, est-ce que Loukachenko en a sous le pied pour dire aux Européens vos sanctions ne me font pas peur?
Honnêtement, là, je pense que les Européens ont aussi montré qu'ils pouvaient être unis, du coup, face à la Biélorussie. C'est-à-dire qu'en dépit des contentieux qui sont assez nombreux entre la Commission européenne, certains pays européens, avec la Pologne, le soutien à la Pologne est complètement unanime, en dépit de la réponse quand même démesurée ou disproportionnée de la Pologne, qui en tout cas est contraire aux règles et aux standards européens et au droit international de manière plus générale.
Et c'est ce qui frappe aussi dans cette crise, haro sur Loukachenko pour de bonnes raisons, hein, d'ailleurs, parce que vous le disiez, effectivement, c'est lui qui a organisé l'arrivée et même a transporté les migrants jusque à ce point de frontière au-delà duquel ils ne peuvent pas aller. Mais on ne dit rien de la Pologne, on ne la vise absolument pas, alors qu'elle refoule en ce moment les migrants au mépris de tous les traités que l'on sait. Pourquoi il n'y a même pas un mot sur la Pologne?
Parce que la question migratoire est vraiment le point faible de l'Union européenne. Vous voyez les débats qu'il peut y avoir, y compris ici en France, sur cette question. Donc c'est pas uniquement l'Europe centrale qui est anti-immigration, on va dire. Et donc aujourd'hui, on perçoit finalement les arrivées de quelques milliers de migrants.
Quelques milliers, il faut répéter, hein, qu'on est entre 2-3 000.
Comme une agression. Alors, ça l'est, in fine, dans ce cas précis. Mais ça a été la même chose en février 2020, quand il y a 10 000 migrants qui ont été envoyés plus ou moins par les autorités turques à la frontière grecque, à la frontière terrestre. Là aussi, les Grecs ont envoyé l'armée. Et là aussi, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement ont soutenu la position grecque qui était: on ne les laisse pas rentrer, du tout.
Ce qui fait que la Pologne, d'ailleurs, fait un pas supplémentaire et annonce aujourd'hui qu'elle commencera à construire un mur à la frontière avec le Bélarus. Qu'est-ce qu'on dit de ça en Europe, pardon de le dire comme ça? Est-ce qu'elle a le droit de construire ce mur à la frontière Bélarus?
Alors, ce que dit la Commission européenne, et elle a raison, c'est que les États membres font ce qu'ils veulent, d'une certaine manière. C'est la décision des États membres. Les États membres sont encore compétents pour le contrôle aux frontières, comme ils sont encore compétents en matière d'immigration et d'asile, hein. Il y a des règles communes, mais ce sont les États membres qui mettent en œuvre ces règles ou on adopte d'autres. Donc, ce que dit la Commission européenne, c'est qu'ils peuvent le faire, s'ils le souhaitent. Il y en a déjà en Hongrie, hein, entre la Hongrie et la Serbie depuis 2015. Il y en a en Grèce aussi depuis très longtemps. La question était, est-ce que c'est à l'Union européenne de financer ce mur? Parce que c'est ce que souhaitent aussi, ces États, et pas uniquement des États d'Europe centrale,
Une fois. L'Autriche, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, il y en a beaucoup. On est très très large par rapport à ce qu'on avait appelé à un moment le groupe de Visegrad, de l'ancienne Europe de l'Est, qui était effectivement ceux qui se regroupaient pour aller sur ces questions-là contre l'Union européenne. C'est beaucoup plus large que ça.
Oui, et c'est peut-être là où il y a un changement, ou une évolution par rapport à ces dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus quelques pays qui assument vouloir aller à l'encontre de l'ensemble des normes européennes et puis d'une certaine manière des valeurs de ce continent. Là, on est sur une alliance qui est beaucoup plus large et qui peut être une majorité. Et on voit déjà le président du Conseil européen, Charles Michel, de dire mais il y a peut-être une possibilité de financer la construction ou l'érection de ce mur, de cette barrière, parce que là, on est plutôt sur du barbelé.
Quand Clément Beaune, qui est chargé des affaires européennes et en France, parlait d'un test pour l'Europe autour de cette question, c'était il y a quelques jours, avant qu'on en soit même là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que, dans cette situation-là, mais également avec ce que vous nous dites là sur la possibilité de barbelés et de murs, est-ce que, de fait, le test n'est pas d'ores et déjà raté?
Alors, ça dépend de quel point de vue. C'est-à-dire que là, finalement, il y a une sorte de soutien unanime et de l'Union européenne, des États membres, pratiquement.
Mais qu'est-ce que ça dit de nous, quand même, quand on commence à construire des murs comme ça?
Ça dit de nous qu'on est prêt à, collectivement, à mettre de côté un certain nombre de standards, de règles, de principes qui ont une histoire dans ce continent. Donc, pour 2000 personnes et dans le contentieux qu'il y a avec la Pologne en ce moment, mais aussi avec la Hongrie, je pense que c'est significatif parce que aujourd'hui ce sont les migrants et on le voit déjà en Pologne et en Hongrie. Demain, ce sont d'autres catégories de la population européennes qui vont être visées. Donc là, les femmes, les personnes LGBT, et puis ça va continuer. Et c'est ça où, d'un côté, l'Union européenne dit veut être ferme sur l'état de droit, la démocratie, et d'un autre côté, quand ça concerne des personnes de nationalité étrangère, on ne l'est pas. Et je préciserai même, si vous me permettez un point, c'est que la Pologne est le principal pays d'immigration aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que c'est la Pologne qui délivre le plus de titres de séjour. Genre deux fois plus que la France, par exemple, principalement des Ukrainiens. Et on voit aussi la disproportion entre 2 000 personnes, 2-3 000 personnes qui viennent de pays à majorité musulmane, même si on ne sait pas s'ils sont de confession musulmane, et les plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens qui arrivent et qui ont accès à un titre de séjour, qui sont régularisés en Pologne.
On va évidemment poursuivre cette conversation, Mathieu Dardis. Je voudrais qu'on salue Marie-Pierre Véraud qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et vous êtes, vous, depuis plusieurs jours, Marie-Pierre, à cette frontière côté polonais, où vous avancez, si je puis dire, aussi près que possible, sachant effectivement que l'accès vous est interdit. Je voudrais que vous nous décriviez à quoi ça ressemble, en fait, là où vous êtes, dans cette espèce de zone inaccessible. En discutant cet après-midi avec vous, vous me disiez, c'est une véritable atmosphère de guerre.
Oui, c'est vrai que la situation est très curieuse, hein, puisque, vous le savez, cette région frontalière est sous état d'urgence. Il y a des barrages routiers un peu partout. On se fait très souvent arrêter, contrôler. Il faut alors expliquer ce que l'on fait là. Chaque fois, on doit ouvrir le coffre de notre voiture. Quand c'est la nuit, les policiers prennent leurs torches pour regarder aussi à l'intérieur du véhicule. Ils veulent s'assurer, en fait, que nous n'avons pas de migrants à bord. Si vous avez des sacs de nourriture, c'est louche. On pense que c'est pour les apporter aux migrants. Et puis, il y a ces véhicules lourds qui transportent des policiers, des membres des forces spéciales. Ils sillonnent les routes en permanence, on les croise, les sirènes. La nuit, dans la forêt, nous avons aperçu des camions avec de gros projecteurs qui balaient les bois pour trouver des migrants. C'est donc une atmosphère vraiment particulière. Je vous propose d'écouter Johanna. Alors elle habite dans une petite ville de la zone rouge à Białowieża, et c'est donc au bord de la frontière avec la Biélorussie.
The sound landscape has changed.
Notre paysage sonore a changé. Nous vivons en permanence avec le bruit des hélicoptères, des drones qui cherchent les réfugiés. Ils ont des caméras thermiques pour les traquer la nuit, ils les cherchent durant la journée. Cela ressemble plus à une zone de guerre qu'à une zone d'exclusion.
Voilà, et pourtant, hein, ce n'est pas la guerre, Fabienne, puisque face à ces troupes casquées, parfois très lourdement armées sur la frontière, ben, vous le disiez, hein, il y a des familles, des femmes, des enfants, des jeunes hommes. Et ce qui est très particulier aussi, c'est donc cette zone rouge, hein, à laquelle nous ne pouvons pas accéder. Elle englobe tout de même près de 200 villages et 15 000 habitants. Et ils vivent un peu, comme nous le disait donc Johanna à l'instant, dans cet état de guerre. En fait, ils sont dans une bande qui est large de 3 à 4 kilomètres, qui court le long des 400 kilomètres de frontière, hein, entre la Pologne et la Biélorussie, une zone qui est interdite effectivement aux journalistes, mais aussi aux organisations humanitaires, aux médecins. Pourtant, c'est là qu'arrivent les migrants, c'est là que se joue en ce moment un drame humain, parce que quand ces migrants parviennent à passer du côté polonais des barbelés, et Dieu sait que ce n'est pas facile, eh bien, souvent ils sont épuisés, ils sont en Europe, mais ils doivent errer dans une épaisse forêt humide. Là, on s'est arrêté au bord de la route, il y a d'ailleurs des camions militaires qui viennent de s'arrêter à côté de nous, c'est très humide, la forêt n'est pas loin, et le brouillard est vraiment très épais autour de nous.
C'est ce qui est fou, Marie-Pierre, dans ce que vous nous racontez, dans ce qu'on voit, des images qui nous parviennent, c'est qu'on a l'impression d'une crise migratoire sans migrants, en fait, ce qui est quand même terrible quand on y songe.
Ben oui, écoute, une crise migratoire sans migrants, en effet. Hein. Puisque ces migrants, quand ils arrivent en Pologne, ils se cachent parce qu'ils ont peur de se faire attraper et renvoyer. Et les bénévoles qui vont à leur rencontre, ces habitants de la zone rouge, eh bien, ils le font aussi en toute discrétion parce qu'ils ne veulent pas être suivis par la police. Les seuls qui peuvent voir ces migrants, ce sont eux. Beaucoup de ces habitants se mobilisent, d'ailleurs, on les a rencontrés. Ils arpentent la forêt, ils portent des sacs de nourriture, de vêtements, de bouteilles d'eau. Ils les laissent parfois dans la forêt en espérant que les migrants les trouveront. Ils ont aussi appris les gestes d'urgence, parce que souvent quand ils trouvent des groupes de réfugiés, eh bien ils sont face à des situations dramatiques, et c'est ce que nous raconte Katarzyna.
Dans la forêt, nous retrouvons des gens qui sont bloqués dans les marais ou par des arbres qui sont tombés. Des gens qui n'ont rien mangé depuis des jours. J'ai rencontré une famille qui n'avait ni mangé ni bu depuis 2 semaines. La norme, c'est 4, 5, 6, 7 jours sans eau ni nourriture. Ils sont frigorifiés, leurs vêtements sont trempés. C'est très humide dans cette forêt. Vous en avez qui ont dû traverser des rivières, et quand ils ont des enfants ou des bébés, ils doivent les porter au-dessus de leur tête. Ils sont très faibles, certains sont en hypothermie. Il y a tellement d'histoires comme ça. J'ai rencontré une femme qui était enceinte et qui est tombée dans la forêt, elle saignait, elle a perdu son bébé. Des histoires vraiment dramatiques.
dramatiques.
Ouais, des histoires à chaque fois dramatiques. Du côté européen, il faut le rappeler, de la frontière, mais il est impossible de recueillir ces témoignages directement, puisque depuis plusieurs jours, il semble y avoir beaucoup moins de franchissements. La nuit dernière, par exemple, nous avons été alertés de la présence de deux Syriens. Ils allaient être emmenés en ambulance. Ils étaient en état d'hypothermie avancée. Ils étaient presque inconscients. Mmh. Les gens que l'on retrouve ces derniers jours dans la forêt n'ont plus la force de parler.
Très rapidement, Marie-Pierre, j'ai une toute dernière question. Qu'est-ce qui se passe quand certains arrivent quand même à passer jusqu'en Pologne?
C'est le problème, parce que leur rêve, quand ils partent d'Irak, de Syrie, de Yémen, dans ce péril très dangereux, c'est de demander l'asile en Europe. Mais là, malheureusement, quand ils parviennent dans cette Europe hors zone rouge, qu'ils sont en contact avec les associations, elles doivent les prévenir que cette demande ne les protégera pas contre l'expulsion, alors que ça devrait être le cas. Et c'est quand même ce que nous dit, je vous propose de l'écouter, Piotr Bistriani de la Fondation Latseni, elle aide les migrants.
Les demandeurs d'asile ont peur de se faire prendre. Parce que nombre d'entre eux ont eu cette expérience de déposer une demande d'asile ici, en Pologne, et juste après, ils ont été emmenés dans la forêt. La police militaire les a repoussés à la pointe du fusil et leur a ordonné de repasser la ligne de barbelés jusque dans la forêt biélorusse. C'est pourquoi ils ont peur de demander l'asile en Pologne. Et s'ils ne le souhaitent pas, nous ne pouvons rien faire de plus que leur donner un peu d'aide, puis les laisser dans la forêt.
Et oui, parce que c'est un comble, la Fabienne, demander l'asile les mettrait en danger. Et là, je suis désolée, nous devons vous quitter parce que ça fait un petit moment qu'Alexandra Bergel tient à distance des militaires, mais ils veulent vraiment que l'on dégage de là où nous sommes. Donc je crois qu'il va falloir que l'on vous dise au revoir.
Allez-y Marie-Pierre, merci beaucoup. Merci à Alexandra Bergel aussi qui est avec vous, Mathieu Tardis, en lisant, en écoutant cette situation. Est-ce qu'on se dit qu'il faut craindre qu'une situation dégénère? Est-ce que le risque qu'il y ait des tirs, il y a eu 10 morts hein, quand même pour l'instant déjà, existe vraiment et qu'il y a ce risque?
Oui, à écouter votre collègue, bien sûr, il y a ce risque que ça dégénère pour les personnes qui se trouvent à la frontière. Est-ce que ça peut dégénérer entre les militaires polonais et biélorusses? Ça, j'en suis moins sûr, mais en tout cas pour la situation de ces personnes. Mais ce qui est très étonnant, c'est justement la mise à l'écart des journalistes, des associations, comme si on était dans une situation de conflit, de guerre. Et ça, je suis aussi assez étonné du certain silence en fait des institutions européennes sur ce point précis, au-delà de la question des refoulements qui sont contraires au droit européen, mais aussi de l'accès aux médias et aux associations qui font partie de la démocratie européenne. Et puis peut-être un dernier point sur le droit d'asile, c'est-à-dire on est quand même sur des personnes qui a priori pourraient être éligibles au droit d'asile, notamment les Syriens, mais uniquement.
Et qui sont refoulés sans le contrôle de rien en fait.
Qui sont refoulés sous contrôle de rien, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la Pologne a refusé que Frontex, donc les gardes-côtes, les gardes-frontières plutôt, en l'occurrence européens, interviennent en soutien, parce que ça veut dire aussi un peu plus de contrôle sur ce que les Polonais font, en tout cas plus de regard. Donc je pense que c'est une des raisons. Mais là aussi, l'Union européenne aujourd'hui est en train d'organiser la prévention des départs, donc, mais y compris de Syrie.
Là, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait bien trouver un épilogue, Mathieu Tardis. Ça veut dire qu'à un moment, il va bien falloir permettre quoi en fait? Permettre d'autres Européens ou des ONG de rentrer dans la zone, d'emmener les migrants quelque part? Est-ce qu'il va falloir, en les encadrant, tous les faire refouler vers la Biélorussie et les renvoyer de là où ils viennent, même si effectivement il faut une réponse humanitaire? Mais à quoi elle ressemble cette réponse, même si effectivement, d'abord, on les nourrit, on les soigne, évidemment.
Écoutez, on a quand même vécu des situations avec des pressions migratoires beaucoup plus importantes dans l'Union européenne, enfin, y compris en 2015, mais même après 2015. Et là, si on a 2 000-3 000 personnes, c'est très facile de pouvoir les accueillir dans des centres dédiés, d'avoir des instructeurs pour examiner leurs demandes d'asile, éventuellement les répartir dans plusieurs pays de l'Union européenne, comme c'est fait depuis 2018-2019 pour les personnes qui sont débarquées en Méditerranée. Donc il y a une poignée de pays, c'est un peu toujours les mêmes, qui se mettent d'accord pour accueillir ces migrants et demandeurs d'asile.
Comme c'est fait,
donc partie la France. Et donc là, sur cette situation très précise, on peut le faire. Après, je pense que c'est l'enjeu pour les Européens, c'est aussi l'enjeu d'avenir au-delà de cette situation. C'est-à-dire de montrer notre faiblesse finalement, ou notre déstabilisation face à quelques milliers de personnes, c'est aussi un signe que l'on donne à d'autres pays tiers qui ne nous veulent pas forcément toujours du bien. Et donc ça veut dire aussi qu'on doit régler deux choses, et je termine là-dessus.
Allez-y.
La première chose, c'est que pourquoi on est aussi vulnérable vis-à-vis de pays tiers, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre au sein de l'Union européenne sur des règles communes, sur une politique commune d'asile et d'immigration. Et deuxième chose, on a aussi des opinions publiques à l'Est comme à l'Ouest qui sont polarisées, voire chauffées à blanc sur cette question-là, et pour lequel ça devient tout de suite une question qui fait débat, et des débats qui sont souvent relativement irrationnel.
À commencer par nous, d'ailleurs, bien évidemment, et puis on verra dans quelques jours comment les choses vont s'agencer. On attend aussi d'autres mots de Moscou, puisque évidemment on sait aussi que c'est un moment ou un autre par cette capitale-là que les choses passent. Mathieu Tardis, je vous remercie beaucoup de votre passage dans
Merci
Un jour dans
vous.
Le monde. Merci vraiment.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe en Jordanie avec des femmes. Vous allez le voir, qui deviennent plombiers parce qu'il faut bien gagner sa vie. Vous en rencontrerez une. Et pour aller jusqu'à 19h ensemble sous les radars, Sébastien Logeni.
Nous irons en République démocratique du Congo où des femmes payent de leur poche pour que la justice puisse poursuivre des violeurs.
Le monde selon Joe Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne. Biden promulgue sa loi infrastructure sur fond d'inflation et de très mauvais sondages.
Le monde d'après, Jean-Marc Faux. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Joe Biden, encore lui, et Xi Jinping vont se parler tout à l'heure. Une petite lueur d'espoir dans un climat de guerre froide.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Il part des États-Unis, il va jusqu'à chez nous et d'inversement. Voici Moriarty, Enjoy the Silence sur France Inter.
Words like violence break the silence, come and crashing in into my little world, painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Ce soir est en Jordanie et nous sommes dans l'atelier d'une femme qui exerce le métier de plombier, et c'est bien rare en Jordanie où plus de 8 Jordaniennes sur 10 ne travaillent pas. C'est le taux d'emploi féminin l'un des plus bas du monde. Résultat, eh bien, les femmes se tournent vers des métiers traditionnellement considérés comme masculins. Voilà des Jordaniennes qui sont bouchères, qui sont plombières. Chez nous, ça passerait évidemment inaperçu, et encore d'ailleurs, en Jordanie beaucoup moins. Le reste, c'est Jérôme Borouzewski qui raconte.
Raoula exerce le métier de plombier. Elle donne également des formations à des femmes qui veulent apprendre à réparer des climatiseurs ou des téléphones portables. D'après elle, les opportunités d'emploi pour les femmes dans ces métiers très masculins sont importantes.
Notre société n'autorise pas un homme à entrer chez quelqu'un lorsque la femme est seule à la maison. C'est donc plus facile pour une femme par rapport à un homme d'exercer le métier de plombier au domicile des autres et d'avoir du travail. Mais malheureusement, depuis la crise du coronavirus, la plupart de l'activité se fait à distance et en ligne. Les maris sont à la maison et donc les gens n'ont plus vraiment besoin d'une femme pour intervenir chez eux pour une réparation. Le coronavirus nous a fait perdre beaucoup de travail, malheureusement. Avant ça, ça marchait très bien. Je gagnais environ 500 dinars jordaniens par mois, environ 600 euros.
Ce qui est un bon salaire en Jordanie?
Oui, bien sûr.
Mais les femmes que Raoula a formées n'osent pas facturer une somme équivalente à celle des plombiers hommes pour une même prestation. Et pourtant, elles offrent un meilleur service.
Dans le monde arabe, les hommes ne font pas le ménage. Le plombier homme salit la pièce dans laquelle il a travaillé, il répare et il s'en va. Et il faut passer une heure ou plus à tout nettoyer après son passage. La femme qui exerce le métier de plombier, elle, a l'habitude de nettoyer sa propre maison et elle ne laisse pas le bazar chez ses clients. Elle nettoie, elle range et elle est aussi plus honnête.
En Jordanie, les femmes étudient. 83% de celles qui n'ont pas d'emploi ont en fait une licence ou un niveau universitaire plus élevé. Mais les possibilités de garde d'enfants sont peu développées et un mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille. Du coup, l'emploi féminin ne décolle guère. Certaines tirent tout de même leur épingle du jeu. Julia Lefebvre est responsable de la formation professionnelle à l'Agence française pour le développement à Amman. L'AFD soutient des projets d'insertion des femmes sur le marché du travail.
En fait, elle s'adapte aussi aux demandes du marché, puisque essentiellement, elle travaille dans le secteur de l'éducation, de l'aide à la petite enfance, et le secteur un petit peu de la santé. Mais ces secteurs sont bouchés, il y a énormément de chômage. Et du coup, elles ont dû aussi s'adapter aux demandes du marché, notamment dans le secteur privé, avec des métiers dits non conventionnels. Ça peut être dans la boucherie, dans des usines. Puisqu'en fait, il y a un besoin de main d'œuvre et pas forcément masculine. Du coup, ça, c'est aussi en fait une forme de réponse à cette demande du secteur privé. Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu un programme de formation qui a formé justement des bouchères, par exemple.
Oum al-Qutayn, une petite ville jordanienne à la frontière syrienne, au milieu du désert de pierre des serres. Fourja et son mari Riyad préparent la terre pour faire pousser des laitues.
Aujourd'hui, dans cette ville, c'est devenu normal pour une femme de travailler. Cela ne pose pas de problème parce que ce n'est pas un choix. Il le faut. Les salaires des hommes ne sont plus suffisants pour couvrir les dépenses des foyers. Toutes les familles ont des prêts immobiliers à rembourser aux banques.
Au début, les gens critiquaient notre situation. Ils me disaient, toi, en tant qu'homme, pourquoi as-tu fondé un foyer si tu n'es pas capable de couvrir toutes les dépenses? C'était très dur à entendre, mais je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, 95% des gens acceptent le fait qu'une femme travaille. Mais il y a toujours 5% de gens conservateurs qui critiquent. La situation a complètement changé. Avant, mettre une femme au travail, c'était une honte. Plus maintenant, même chez les communautés bédouines.
Fourja envisage maintenant de créer sa propre activité, une serre hydroponique, chez elle, pour travailler tout en s'occupant de ses 5 enfants.
Jérôme Borouzewski pour le reportage en Jordanie. Grand merci. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et repérée par Sébastien Logeni. Sébastien, nous sommes à Lubumbashi, c'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Il y a plus d'un an, une terrible émeute éclatait dans la prison centrale.
C'était en septembre 2020, Fabienne. Un groupe de détenus parvient à prendre le contrôle de la prison de Kasapa, la plus grande du pays, qui abrite également un quartier pour femmes. La mutinerie va durer 3 jours. 3 jours pendant lesquels les prisonnières empêchées de sortir vont vivre un calvaire. Sur 56 prisonnières, 38 témoigneront avoir été violées à maintes reprises, parfois fois par plusieurs prisonniers à tour de rôle. Et leur calvaire ne s'arrête pas là. Après les faits, les autorités congolaises vont totalement les abandonner. Pas de consultation gynécologique et surtout une enquête judiciaire qui n'avance pas. Finalement, le 28 octobre dernier, le procès des violeurs est censé s'ouvrir à Lubumbashi, mais l'audience ne peut pas se tenir car la justice explique ne pas avoir les moyens financiers pour le transport des accusés. Un problème qui n'est pas rare au RDC, comme l'explique cet avocat.
Un magistrat, quand il vous demande de descendre sur le terrain pour aller revivre la reconstitution des faits, il demande toujours des frais. On dit il faut confirmer la plainte, il faut acheter les papiers, il faut acheter les stylos.
Alors face à ce blocage financier, une ONG congolaise s'est mobilisée, l'Union des femmes des médias qui a lancé une campagne de collecte de fonds. L'opération a permis de rassembler l'équivalent de 388 euros exactement. La somme a été remise au parquet de Lubumbashi. Le procès a pu enfin commencer la semaine dernière, un début de soulagement. Consciente toutefois ces femmes qu'il ne s'agit là que d'une goutte d'eau judiciaire dans ce pays ravagé par les guerres où le viol est utilisé comme une arme. Il y a 10 ans, des chercheurs américains chiffraient le nombre de victimes à 400 000 par an, un viol chaque minute.
Direction la Nouvelle-Zélande où le célèbre haka des Maoris est utilisé à toutes les sauces.
On connaît surtout la version All Black, le kamaté au début des matchs de rugby, ce rituel où on frappe les pieds au sol, on fait rouler les yeux dans les orbites pour impressionner l'adversaire. Eh bien ce haka, on l'a réalisé ces derniers jours en pleine manifestation face à des forces de police. Voilà, c'était il y a 3 semaines en Nouvelle-Zélande lors d'une manifestation anti-vax. Les anti-vax qui se sont appropriés littéralement ce chant et cette danse pour dénoncer la politique sanitaire très stricte dans le pays. Les Maoris ne l'entendent pas toutefois de cette oreille. Le haka a été reconnu comme étant leur propriété intellectuelle. Ils en détiennent les droits. La tribu Maori a d'ailleurs déjà dénoncé des utilisations commerciales ou trop satiriques du haka. Et là, elle vient de demander aujourd'hui aux anti-vax de cesser d'utiliser ce rituel lors de leur manifestation. Les Maoris qui affichent une ligne clairement pro-vaccin, car c'est leur communauté la plus pauvre qui est souvent la plus touchée par la maladie.
Et puis Sébastien, on termine en Angleterre qui s'interroge sur l'avenir de ces célèbres cabines téléphoniques rouges.
Oui, ces cabines publiques vitrées qui jalonnaient autrefois le paysage britannique, aussi mythique que le bus à Impérial, eh bien le téléphone portable, avec le téléphone portable évidemment, ces cabines se sont mises à disparaître. Il n'en reste plus que 20 000 environ dans tout le pays, promises à la casse. Mais ces vieilles carcasses retrouvent parfois une seconde vie. Comme ici dans ce reportage sur la télé anglaise CBS qui montre un artisan spécialisé dans la rénovation de ces cabines rouges. Ces dernières années, plus de 6000 d'entre elles hors d'usage ont été transformées pour devenir des bibliothèques, pour abriter des défibrillateurs ou encore des distributeurs de billets. Ce phénomène de sauvegarde du patrimoine n'est pas nouveau. En revanche, ce qu'il est beaucoup plus, c'est que le régulateur des télécoms a décidé d'en sauver plusieurs milliers de ces cabines et pas pour le fun. Et pour qu'elles continuent vraiment de fonctionner, 5000 cabines préservées, à condition que leur emplacement ne soit pas couvert par les 4 réseaux de téléphonie mobile, ou si plus de 52 appels ont été passés là-bas sur les 12 derniers mois, ou si la cabine, par exemple, est située à un endroit où il y a fréquemment des accidents. Bref, du service public à l'anglaise.
Allez, enlever les cabines anglaises, c'est un peu comme enlever son chapeau à la reine, hein, Sébastien.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, on se retrouve évidemment demain, direction Washington.
France Inter, un jour dans le monde.
L'Amérique, selon Joe Biden, ce soir, Sébastien, c'est une cérémonie en grande pompe sur fond de mauvaises nouvelles. Le plan infrastructure du président devient une loi devant les caméras, mais ça ne masque pas les difficultés du moment.
Oui, l'équipe Biden met les petits plats dans les grands pour cette cérémonie de signature, mais ça ne fait pas oublier la réalité. Alors commençons par la photo du jour. Ce sera dans un peu plus de 2 heures dans la roseraie de la Maison Blanche. Le président va promulguer sa loi infrastructure adoptée à l'arraché par le Congrès il y a 10 jours. La vice-présidente Kamala Harris sera là aussi. Il est prévu qu'ils prennent la parole tous les deux. Et on a invité des élus, sénateurs, gouverneurs, maires, y compris républicains, qui ont permis le vote de ce plan. On verra qui sera là tout à l'heure.
Alors, côté pile, en revanche, ça brille pas du tout, hein.
Non, le pays connaît l'inflation, les prix grimpent dans presque tous les domaines, plus 29% pour une douzaine d'œufs en un an, 3,42 $ le gallon d'essence en moyenne dans le pays, c'est presque 50% de plus sur un an. La secrétaire à l'énergie, Jennifer Granholm, avait du mal à masquer son impuissance ce matin sur CNN.
Le président est totalement mobilisé sur ce dossier.
Il est vraiment très préoccupé par l'inflation, évidemment, et le prix de l'essence, parce que c'est sa manifestation la plus concrète. Et comme vous le savez, aucun président ne contrôle le prix de l'essence. Le pétrole est vendu sur un marché mondial, donc le président regarde les outils limités qu'il a. Je n'ai rien à annoncer à ce sujet. Je peux seulement vous dire ce que l'Agence de l'énergie dit. Et ils disent qu'au début du mois de décembre, le prix sera d'environ 3,16 $ le gallon. Mais encore une fois, beaucoup de choses peuvent changer. Mais c'est ce qu'ils disent pour le moment.
Alors, c'est la Californie qui bat les records de prix de l'essence en ce moment. 4,68 $ le gallon.
Et pendant que les prix grimpent, Sébastien, les sondages baissent.
Eh oui, le dernier en date, c'est celui d'ABC News et du Washington Post. Sondage qui existe depuis novembre 81. Biden est au plus bas à un an des élections de mi-mandat. Mais surtout, en 40 ans, cette enquête n'a jamais donné autant d'avance aux républicains. Plus d'un électeur sur deux inscrit, 51%, affirme que si les élections avaient lieu aujourd'hui, ils voteraient pour le candidat républicain de leur circonscription. 41% pour le candidat démocrate.
Alors, l'ancien président, lui, en revanche, Trump, a vendu son hôtel à Washington.
Ouais, le Trump International Hotel, qui se trouve dans l'ancienne poste de la capitale, ici sur Pennsylvania Avenue, on est à deux pas de la Maison Blanche. L'hôtel Trump devrait s'appeler dans quelques mois le Waldorf Astoria. L'ancien président a vendu, en effet, le bail qui court jusque sur 100 ans. Il a vendu au groupe Hilton 375 millions de dollars, d'après le Wall Street Journal. C'est nettement moins que les 500 millions que voulait Trump, surtout qu'il a investi 200 millions pour rénover ce bâtiment 19e classé. Il a accumulé 70 millions de pertes depuis son ouverture en 2016.
Allez, pour finir rapidement, Sébastien, la parodie de Sesame Street, un rue Sésame chez vous, du Saturday Night Live.
C'était samedi soir sur NBC.
For 50 years, I stood by as Sesame Street taught our children dangerous ideas like.
Vous vous souvenez que Biden avait félicité Big Bird sur Twitter, l'oiseau jaune de l'émission pour enfants, qui s'est fait vacciner. Eh bien, le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, n'a pas aimé que le président s'en mêle. Alors, le Saturday Night Live a lancé Cruz Street, où le faux Ted Cruz crée donc sa propre émission pour enfants, où ils sont à l'abri de la politique néfaste du gouvernement, entre guillemets, et où ils viennent avec des armes pour se protéger, je mets toujours des guillemets, tous les thèmes donc de prédilection du sénateur conservateur.
Merci beaucoup Sébastien Paour avec nous en direct de Washington. On se retrouve évidemment lundi prochain.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Le monde d'après, signé Jean-Marc Four. Comme chaque soir, ils vont se parler, Jean-Marc, Joe Biden, dont on parlait à l'instant, et Xi Jinping. Ils ont donc rendez-vous tout à l'heure pour un sommet virtuel, le premier du genre entre les présidents américains et chinois, dans un climat proche de la guerre froide entre les deux puissances mondiales. C'est une petite lueur d'espoir et c'est votre monde d'après.
Bon, on va pas se mentir, ça s'annonce tout de même pas comme une troisième mi-temps de rugby où on se tape sur les cuisses en se racontant des blagues et en poussant la chansonnette. Ce sera un échange par écran interposé un peu virtuel. Et froid, ça ne vaut pas une bonne accolade. Mais c'est déjà ça, et c'est déjà beaucoup plus que les deux maigres coups de fil échangés entre les deux hommes en 10 mois, deux seulement, depuis la prise de fonction de Joe Biden. Le sommet, via les liaisons vidéo, devrait cette fois durer plusieurs heures. Il y a, sur la forme, une volonté affichée de détendre un peu l'atmosphère, de baisser d'un ton après la tension des débuts et les échanges de noms d'oiseaux. Souvenez-vous, lors de la première rencontre à Anchorage, en Alaska, entre les délégations, c'était en mars dernier. Les mots ont leur importance, surtout, on le sait, en matière diplomatique, et le vocabulaire évolue. Washington ne qualifie plus Pékin de « rival systémique », mais plutôt de « concurrent féroce ». C'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que les deux pays sont en compétition, dont acte, mais les deux présidents, qui sont tous deux des pragmatiques, semblent désormais désireux de gérer cette compétition de la façon la plus raisonnable possible pour éviter un dérapage, une escalade incontrôlable. Au moins, ils se parlent. Et puis, de toute façon, on ne négocie jamais qu'avec ses ennemis. Hein, c'est le principe.
Donc, il y a un changement de ton sur la forme. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir sur le fond.
Non, c'est vrai. D'ailleurs, ni Washington ni Pékin n'affirment espérer des résultats concrets lors de ce sommet. Cela dit, même sur les dossiers de fond, il y a une volonté d'avancer sur au moins trois sujets majeurs. La santé, il y a bien besoin de coopération et de transparence face à la pandémie. Le climat, enjeu vital par excellence. Les deux capitales ont quand même créé la surprise la semaine dernière en publiant un communiqué commun sur le réchauffement climatique et sur l'importance des accords de Paris et en annonçant une démarche concertée sur la déforestation. Et puis surtout, évidemment, il y a le commerce. C'est à la fois le terrain par excellence de la rivalité entre les deux pays et aussi leur point de convergence parce que les deux économies finalement dépendent l'une de l'autre. C'est un peu « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Il faut donc trouver des compromis, des donnants-donnants. Côté américain, les grandes entreprises poussent aujourd'hui pour une relance des négociations commerciales. Boeing aimerait vendre des avions, les agriculteurs américains évidemment vendre leur soja. Côté chinois, on a aussi besoin d'exporter pour alimenter la croissance. Une croissance qui tousse en Chine, ralentie par la baisse de la consommation intérieure dans le pays. Ces dernières semaines, on a vu apparaître des gestes de bonne volonté. Par exemple, le retour en Chine de la numéro 2 de Huawei, souvenez-vous, Meng Wanzhou, longtemps retenu au Canada. Et ce retour a été rendu possible par la levée de la demande d'extradition américaine à son encontre. Ça s'appelle quand même une volonté d'apaisement.
Donc, une lueur d'espoir, mais on reste quand même loin du compte, Jean-Marc.
Oui, oui, on reste loin du compte. Le climat qui prévaut reste celui d'une forme de guerre froide. Et malgré ces quelques signes de bonne volonté, ça peut dégénérer. D'abord parce qu'il reste de nombreux sujets explosifs, la compétition numérique, voire la guerre dans le cyberespace, la question des droits de l'homme, en particulier des Ouïghours, et surtout la militarisation en mer de Chine avec la question ultra sensible de Taïwan. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 18h. Pékin persiste à considérer que l'île lui appartient. D'ailleurs, à quelques heures de ce sommet Xi-Biden, la presse officielle chinoise insiste sur ce sujet en écrivant, je cite, que Pékin est déterminé à parvenir à la réunification nationale, donc avec Taïwan, dans un futur proche, peu importe le coût. Peu importe le coût, une offensive chinoise sur Taïwan pourrait déclencher un conflit majeur. Ce qui nous conduit à l'autre source d'inquiétude, c'est la dérive autoritaire du pouvoir de Xi Jinping. Le président chinois concentre désormais tous les pouvoirs. Il a été conforté encore un peu plus par le plénum du parti la semaine dernière. Il semble décidé à rester sur son siège à vie. A priori, il sera renouvelé dans un an lors du congrès du parti sans problème. Concrètement, ça veut dire que les contre-pouvoirs par définition sont absents, donc tout dépend des humeurs d'un homme. Et ça n'est jamais très bon. La lueur d'espoir peut s'éteindre à tout instant.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc et à demain. La suite pour nous, c'est le journal de 19h d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne à suivre. Bonne soirée avec nous.